Vous êtes sur RTL. Pro sur RTL.
Annoncé par le Premier ministre Jean Castex, le retrait de la liste La République En Marche au profit du président sortant Renaud Muselier rebat les cartes pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur et sème la zizanie à droite face notamment à un rassemblement national conduit par un transfuge lui-même des Républicains, Thierry Mariani. Nous sommes avec Dominique qui est avocat à Lyon et qui s'estime cocufié, c'est bien cela ?
Couillonné. Non, bon. Non, quand même pas cocufié, ma pauvre femme. Enfin, quand même, Pascal.
Expliquez-nous.
Voilà, je me sens couillonné, tout simplement parce que je suis électeur, ancien militant de LR. J'étais même au RPR depuis 87. C'est pour vous dire, j'ai milité, j'y ai cru, j'ai distribué des tracts, j'ai collé des affiches, j'ai assisté à des meetings. Et on m'a donné une idéologie à laquelle j'adhérais. Et là, on m'a martelé des critiques sur Macron depuis 2017, en me disant « mais non, on n'est pas les mêmes. Si Édouard Philippe est parti chez Macron, c'est une démarche personnelle. Mais n'allez pas chez Macron, restez chez nous, regardez, la politique de Macron est critiquable. Nous allons revenir au pouvoir, nous allons revenir aux affaires et nous allons mener une vraie politique LR de droite. » Et là, on me fait une espèce de petit dans le dos. Alors, vous parliez tout à l'heure du parti radical. Pascal, je crois que je vais être radicalement parti, moi. Parce que, effectivement, je comprends que c'est que de la combination, qu'en fait, les dirigeants LR n'ont pas de colonne vertébrale, que tout ce qui leur importe, c'est de rester au pouvoir ou de le reconquérir, peu importe l'idéologie. Et peu importe les militants et les adhérents dont je suis. Donc, nous,
Je vous rappelle quand même que Renaud Muselier, il reste avec sa liste. C'est simplement l'autre liste qui se retire. C'est important de le dire quand même. C'est le Premier ministre qui dit « je retire ma liste ». Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais peu importe, ça prouve qu'on est pour eux, qu'on est compatible avec les autres.
Bah oui, mais ça vous l'êtes. Enfin, vous n'avez pas découvert ça hier. Oui, c'est-à-dire que quand vous avez Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Gérald Darmanin et d'autres qui sont passés des Républicains à La République En Marche, ou en tout cas dans le gouvernement Macron, vous savez bien qu'il y a de la porosité. Et pourquoi pas d'ailleurs ?
Et quand ça nous cause des troubles et que l'on dit à nos sections LR, on leur dit, écoutez, bon, on va tous aller en marche alors, puisque certains vont en marche et qu'on est Macron compatible. On nous dit non, restez chez nous, surtout pas. Voilà ce qui nous différencie de Macron, c'est pas la même politique. Et puis quand on entend notamment sur vos antennes les hommes politiques LR jusqu'à présent, ils critiquaient Macron.
Alors, ce qui n'est pas tout à fait juste, je veux dire, c'est de présenter comme un retrait de la liste de La République. La vérité, c'est qu'il va avoir, on va fusionner. C'est-à-dire qu'il va avoir des éléments de La République En Marche. Par exemple, Madame Cluzel, qui était la chef de file pour les régionales en PACA, elle va sans doute être dans le Var. C'est ce qu'elle disait en tout cas au journal du dimanche hier.
Oui,
mais donc elle va intégrer le dispositif de Renaud Muselier.
Mais que ce soit au second tour où il faut faire un barrage avec contre le RN, je comprends qu'il y ait ce genre de fusion, mais pas dès le premier tour, parce que c'est pas qu'une question de personne, il faut aussi qu'on ait la même pensée, la même politique.
Là, on il y a des points communs, convenez qu'il y a des points communs, il y a des passerelles entre La République En Marche et les Républicains.
C'est pour ça que je dis que Macron a très bien fait, et l'REM a très bien fait, puisque en fait, maintenant, il démontre une chose, c'est que c'est plus la peine d'être adhérent LR, on peut être directement adhérent La République En Marche, puisqu'il y a de telles passerelles qu'on pense la même chose, et que dès le premier tour, on peut mettre les uns ou les autres notre mouchoir sur nos pensées propres et que effectivement on peut faire une liste commune. Moi, je ne sais plus où j'ai plus de boussole.
C'est intéressant votre parcours. Non, mais votre parcours, il est intéressant parce que déjà les Républicains, c'est les enfants de l'UMP et l'UMP, c'est les enfants de l'UDF et du RPR. Avez dit tout à l'heure que vous étiez au RPR.
Oui.
C'est pas la même chose qu'être à l'UDF. Il y avait deux familles de droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en a une, effectivement, qui rejoint Macron, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et vous, vous allez peut-être être tenté d'aller au Rassemblement National, comme Mariani.
Voilà. Écoutez, en tout cas, j'allais dire concrètement, en l'état actuel, non, je pense que je serais plus un abstentionniste plutôt que d'aller, de franchir le pas vers le Rassemblement National.
Parce qu'entre le RPR des années 80, oui, qui était quand même très à droite.
Oui, mais...
Le RPR de Pasqua, Pandreau et d'autres.
Battu, Chirac s'est toujours battu contre Le Pen.
Vous
il a toujours dit, on ne fait pas de, voilà, on ne votera jamais pour les FN, et il a toujours dit qu'il fallait faire le barrage républicain.
Vous avez raison, mais donc, si on voit les idées parfois, il y avait des petites passerelles, si vous me permettez, oui, entre les discours. Il y avait des discours, effectivement, il y avait la position de principe, et puis tu t'apercevais quand même que parfois au RPR, tu étais très à droite, disons-le.
En fait, il y avait deux lignes. Il y avait une ligne un peu Chirac qui était plus, j'allais dire, à la gauche du RPR, et vous aviez la ligne Pasqua un peu qui était plus à droite.
Il y avait Pasqua, ouais, effectivement.
Entre autres.
Bon, ben merci beaucoup, Dominique. Donc vous ne votez pas finalement au régional cette fois-ci.
J'ai pas voté parce que.
Oui, mais vous ne votez pas dans la région PACA en plus.
Mais je suis pas électeur en PACA, mais quand on voit que ce genre de choses est admissible, moi je ne sais plus si je suis LR ou pas. Je ne sais même plus ce que je suis, puisque on fait de la combination et on n'a pas de colonne vertébrale claire.
Être LR ou pas, that is the question. Vous avez raison, Dominique. Je vous remercie. Je ne sais pas si une chanson de Dalida illustrerait le thème qu'on vient d'avoir, parce que je rappelle que aujourd'hui nous célébrons, si j'ose dire, nous commémorons plutôt, c'était le 3 mai 1987, ça fait donc 34 ans que Dalida est morte. Alors parmi ses titres les plus célèbres, il y a Mourir sur scène. Peut-être que les Républicains sont en train de mourir sur scène.
Parfois on dit que la politique c'est parole aussi.
Aussi, mais c'était plus banal. Est-ce que là, mourir sur scène, peut-être
c'est
agréable. Que
ça... peut-être que content d'avoir eu cette idée. La semaine peut-être, commence bien en tout cas.
Peut-être que ça illustre plus. La pause, vous pouvez nous appeler, on parle politique, mais on peut parler également, si vous le souhaitez, de ce qui s'est passé ce week-end, et notamment la violence dans les manifestations du 1er mai, et puis les pêcheurs de la région de Saint-Brieuc qui se disent en guerre. Et puis si vous souhaitez intervenir sur l'affaire Nordal-Lelandais, pourquoi ces faits divers les plus horribles nous passionnent-ils parfois autant? Ça serait assez intéressant de vous entendre là-dessus. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier, le week-end fut bon.
Très bon, et vous?
Pour la dernière fois, vous étiez auprès de chez vous, près de 10 km, et là, vous pourrez peut-être libérer un peu...
Libérer, délivrer, comme chantait la Reine des Neiges, jadis.
Libérer votre activité automobile, voulais-je dire.
C'est la question du jour et le sujet qui vous fait réagir au standard. Emmanuel Macron a-t-il piégé les Républicains pour les régionales en Provence, Alpes, Côte d'Azur? Que pensez-vous du retrait de la liste LREM au profit du président sortant Renaud Muselier? Dominique, ancien militant LR, a été le premier à réagir au 32-10.
Je me sens vraiment couillonné, on s'est fait vraiment avoir par Macron.
Certains à droite parlent de petites manœuvres électorales. Gilles Platret, vice-président des Républicains, était l'invité de RTL midi avec Christelle Orbière.
Le parti qui est le nôtre ne peut pas aujourd'hui accepter d'être cocufié par M. Muselier comme il est en train de le faire. Les électeurs des Républicains ne sont pas les électeurs d'En Marche. Ces tripatouillages entre chapeau à plume se font toujours sur le dos du peuple, c'est ça qu'il faut voir, et ne peuvent que susciter le dégoût.
Cocufié, couillonné, Laurent en a marre de cette politique française. Fab est électeur Les Républicains. Je ne m'y retrouve plus. C'est ce qu'il nous dit sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Il n'y a plus de conviction. Ce qui les intéresse, c'est de se maintenir au pouvoir. Ça se tire dans les pattes la plupart du temps, observe Didier. Et là, ils sont, excusez-moi de l'expression, bas comme cul et chemise. Pour Eric, ils sont tous ridicules. Et à force de vouloir faire barrage au Rassemblement National, lance Patricia, ils vont obtenir le résultat inverse.
Alors, François est là. François qui habite Deauville, qui
oui,
est en
bonjour.
Retraite.
Bonjour à tous.
Merci François. Bonjour.
Eh bien voilà, je pense qu'ils vont faire gagner encore un ou deux points pour Mme Le Pen. S'ils continuent comme ça encore plusieurs fois comme ça, je crois que Mme Le Pen va passer.
Expliquez-nous cela.
Eh bien c'est Magouille et compagnie, c'est une nouvelle franchise de la politique. Dites, quand vous êtes de droite, vous ne vous mettez pas avec des gens de gauche, je suis désolé.
Parce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron est de gauche.
Oui, c'est un gauche, c'est un sociodémocrate comme on rencontre en Amérique avec Monsieur Biden. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis les républicains, ben, c'était Monsieur Sarkozy comme Monsieur Trump. Vous voyez. Je crois que c'est ça la différence de la politique. Mais là aujourd'hui, là, mais s'il continue comme ça, là, les gens vont plus aller voter. Il peut pas mieux faire pour que les gens arrêtent d'aller voter. Ça, c'est sûr. Ça fait magouille dans tous les sens. Il a peur de perdre sa place, Monsieur Muselier. Mais dites, il faut prendre des risques dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours se remettre en question. Et puis naturellement, eh bien, c'est les portefeuilles à diviser. Vous voyez, les Français le pensent maintenant. On voit tellement de choses, des informations sur la politique, les détournements et plein de choses. Eh bien, c'est scandaleux. Et puis regardez, la droite, elle est morte sans M. Sarkozy. Il n'y a plus de droite. Les Républicains, il faut refaire venir le patron. Avant, il y avait le patron. M. Sarkozy a gagné les élections. Il n'y a plus rien sans M. Sarkozy. Je vois M. Bertrand là, qui veut se mettre socio-gaulliste. Vous vous rendez compte, le général de Gaulle n'a jamais parlé de social pour se présenter aux élections. C'est quand même grave de s'inventer des choses comme ça. Il va falloir réformer cette France. Regardez, elle a la dérive dans la délinquance. Pourquoi la délinquance? Parce que les prélèvements obligatoires sont trop forts. Les jeunes, ils veulent faire de la drogue, ils gagnent de l'argent plus facilement que s'ils créent une entreprise. Il faut redresser ce pays-là. Et regardez, on parle déjà de petits arrangements sans un programme, sans rien. Vous voyez, je veux dire, M. Macron, il a été élu sans programme. Vous avez vu le problème aujourd'hui? Il n'y a rien dans M. Macron. M. Macron, c'est un étudiant qui a mis un costume. Il est pas patron. Et il faut taper sur la table, il faut remettre la France en route, il faut faire deux grands partis en France comme en Amérique, les sociaux-démocrates et puis les républicains. Et là, on fait de la magouille, on met tout le monde dans le même panier. Eh bien, je suis désolé, j'irai pas voter. Je vais pas aller voter pour des arrangements comme ça. C'est pas ça la logique. Quel programme qu'ils vont donner pour baisser les prélèvements obligatoires? On est à plus de 40%, on est comme si on était sur un régime communiste en France. L'État saisit, vous inquiète dans tous les sens. Ça peut pas durer comme ça des décennies.
Vous êtes un électeur de droite.
Oui.
Bon, donc vous avez voté toujours pour le candidat de droite à toutes les dernières élections, nous sommes d'accord.
Oui, mais pas toutes les dernières élections.
C'est-à-dire que parfois...
Qu'importe, c'est tendance droite.
Non, mais ce qui m'importe, c'est d'essayer de comprendre l'électeur aujourd'hui des Républicains. Vous êtes le deuxième qui vient sur ce studio et qui dit « moi, je ne voterai plus ». Voilà, oui. Abstention. Oui. Donc, vous n'êtes pas tenté d'aller porter votre voix sur un autre parti?
Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Dites, citez-moi un programme de
j'en sais rien, moi. Je vous pose, par exemple, Thierry Mariani, il est passé des Républicains au Rassemblement National. Donc j'imagine
oui, c'est un débat sur Rassemblement National. Celui communiste, c'est que des interdictions.
D'accord.
C'est pas avec des interdictions qu'on va sortir le pays de la crise.
Donc vous n'avez aujourd'hui pas d'offre qui vous plaise.
Mais exactement. Exactement. Vous n'avez pas un parti en France.
Bon, vous n'avez pas de leader à droite pour vous. Il n'y a pas un leader aujourd'hui. Il n'y a pas un enfant. Xavier Bertrand, ça vous plaît pas?
Mais pas du tout, M. Bertrand, il est tout bon, on dirait un nounours.
D'accord. Valérie Pécresse.
Ce gars-là, il commence à dire le social, le gaulliste. Attendez, mais ça veut dire quoi,
bon.
Ça
Valérie Pécresse. Valérie Pécresse.
Agir, pourquoi? Il s'invente des mots.
Oui, mais Valérie Pécresse, ça vous convient pas?
Elle était bien avant, quand elle était sur M. Sarkozy, elle était très très bien. Mais c'est pas une patronne.
D'accord. Et Bruno Retailleau?
Mais c'est pareil, c'est des petits soldats. Vous faites revenir, par exemple, M. Sarkozy, là, vous le faites revenir, la droite, elle passe facilement, elle gagne facilement les élections, ne serait-ce qu'avec la délinquance. Il n'avait pas fait le Karcher, ben, peut-être qu'il le ferait, là, vous voyez, il remettrait peut-être ça en route, que ça plairait davantage aux Français. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas un qui va faire un petit coup de Karcher, il n'y a pas un qui va réformer l'État. Regardez, bon. Intercom, commune, département, région, métropole, ils sont en train de se battre pour les portefeuilles. Ils nous coûtent deux fois trop cher, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont ruiné, pillé les caisses depuis Mitterrand. Ils ont fait la décentralisation, mais on n'a pas besoin du double et du triple bureaucratie en France. Il y a des ordinateurs partout. Donc, ce qui fait que la France est arrivée dans un état à cause de toutes ces erreurs monumentales.
Bah, merci François, comme quoi...
Les élections pour faire des magouilles, vous vous rendez compte?
Je suis d'accord avec vous, mais là, vous dites qu'il y a des magouilles, et puis vous dites depuis 45 ans, c'est comme ça, et la droite a souvent été au pouvoir. Elle a été au pouvoir sous Chirac, elle a été au pouvoir sur Sarkozy. Donc, finalement, j'ai envie de dire, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Pour vous, en tout cas, c'est ce que.
Mais je suis d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous. Il serait bientôt temps qu'un grand chef d'entreprise qui vient du privé, qui ne vient pas de l'ENA, vous savez, l'École nationale d'administration, que c'est tous les mêmes policiers dans le même moule, il faudrait qu'un grand chef d'entreprise arrive au pouvoir en France, comme en Amérique. La France est
un pays moderne, mais c'est un pays étatisé dans tous les sens. Personne ne peut franchir la porte pour rentrer. Vous voyez, pour se présenter aux élections présidentielles.
Je vous coupe parce que je sens que d'abord vous êtes en forme, et ça c'est une bonne chose. Et effectivement, je vous comprends. Enfin, je vous comprends. Je comprends ce que vous voulez dire en tout cas. Et Greg Carannoni.
Oui, vous voulez. Vous voulez mourir sur scène. Non, je l'ai préparé pour vous.
Oui, mais je l'ai préparé. C'était tout à l'heure. Là, c'était autre chose.
Ah oui, d'accord. Maintenant, vous insinuez que j'ai un train de retard. c'est de mieux en mieux.
Une trottinette de retard.
Ouais, c'est ça.
Les faites pour écouter quelques musiques de.
Dalida.
De Dalida. Ça, c'est bien, ça.
Vous avez une chanson préférée de Dalida ?
Moi, j'aime bien. Je regardais de quelle année elle était. Vous savez quel âge elle aurait aujourd'hui ?
88 Dalida. Ans.
C'est fou. Hein. Elle était née le 17 janvier 1933, Dalida. Et effectivement, ça fait partie de ces chanteurs, Joe Dassin, Claude François, Dalida, qui sont morts jeunes. Et par définition, on ne sait pas comment ils auraient vieilli. La pause.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est la question du jour. Emmanuel Macron a-t-il piégé les Républicains ? Et on rappelle que pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la liste s'est retirée. Mais en fait, elle va d'une certaine manière fusionner. En tout cas, il y aura des éléments de La République En Marche qui seront dans la liste de Renaud Muselier, à qui, a priori, on a enlevé l'investiture des Républicains. Robert est là, donc, dans les Bouches-du-Rhône. Mmh. Donc, vous votez, si j'ose dire, Robert.
Oui, bonjour. Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Bon, j'espère qu'il n'y ait pas trop de monde qui nous entende, hein, parce que je vais dire des méchancetés.
Mais allez-y.
Voilà, bon. Mais vous savez, je suis adhérent donc aux Républicains. On essaie de former un programme politique, hein, de faire émerger quelqu'un. Muselier, il s'est présenté aux élections internes sans dire qu'il allait s'allier avec La République En Marche. Ce que je trouve scandaleux, parce que, pardonnez-moi l'expression, c'est un faux cul. Et depuis longtemps, puisque je le connais depuis le début des histoires de clinique à Marseille, hein, donc je suis abasourdi.
Non, mais voilà. C'est de la politique. Vous dites, vous traduisez ça par un terme qui est un terme, comment dire, qui irait sur son caractère. C'est tout simplement de l'opportunisme. Pense-t-il ? Est-ce que c'est le bon calcul ? Je n'en sais rien. Mais c'est de la stratégie, pourquoi pas politique ? C'est de l'opportunisme politique ? C'est du cynisme politique ? C'est tout ce que vous voulez. Mais convenez que lorsque François Mitterrand faisait allier avec le Parti communiste, c'était pas autre chose.
Mais écoutez,
c'est la vie politique.
Mitterrand m'a provoqué des douleurs stomacales.
Je suis désolé d'avoir ravivé ces douleurs. Non, mais c'est la vie de la politique, vous êtes marrant. Après, est-ce que c'est le bon calcul ou pas ?
Écoutez, on veut avancer dans un monde un peu plus clair. C'est pas avec ce genre de personnage qu'on va avancer.
Et oui, c'est quoi la solution alors ? Par exemple, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes adhérent républicain. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voter ?
Voilà ce que je fais. Bien sûr que je vais aller voter parce que voter.
Et vous voterez pour qui ?
Il y a des gens qui s'entretuent encore pour avoir le droit de vote.
Vous voterez pour qui ?
Alors, je vais pas voter. Pour quelqu'un, je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter, je vais attendre que les choses se décantent. Mais en tout cas...
Mais est-ce que vous voterez pour Muselier ?
Absolument pas.
Alors que vous auriez voté pour lui s'il n'avait pas fait alliance avec La République En Marche ?
Bien entendu. On assume nos convictions. Après,
et oui, mais si elles ne sont pas représentées, vos convictions complètement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de liste des Républicains, ce qui est possible...
Oui.
À ce moment-là, vous votez quand même Muselier ou vous votez pour le Rassemblement National ?
Je ne vote ni pour l'un ni pour l'autre, je vote blanc.
D'accord. Voilà. Et tout le monde vote blanc, vous êtes le troisième aujourd'hui, c'est rigolo d'ailleurs.
Mais oui, mais écoutez, c'est significatif. Et puis ça fait depuis 30 ans que je m'entretue, parce que j'étais tueur à gages à l'époque.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que j'ai fait Kennedy, j'ai fait etc.
Non mais Robert, attendez.
Non,
ne plaisantons pas avec ça, parce que je vous assure, c'est là, je suis très attentif à ça. Vous pouvez pas dire sur l'antenne, j'étais tueur à gages sans que personne ou que je ne réagisse pas. Donc
c'est une plaisanterie.
C'est une plaisanterie. Mais bon, c'est pas l'heure de plaisanter à l'heure du déjeuner.
Mais écoutez,
avec ça,
déjà que j'ai mal à l'estomac.
Non. Bon. Le fait est que vous allez attendre pour réfléchir.
Muselier, il est adepte de jeudi blanc, je fais noir.
Bon, il est temps de passer à table.
Oui, mais je vous attends pour l'apéro, si vous voulez.
Ah j'ai l'impression qu'il a commencé un peu, non? Un petit peu.
Non, pas
d'apéro. Ah bon.
Non,
pas d'apéro.
Absolument pas.
Bon,
absolument
alors, écoutez, alors très bien, il est temps de passer à table. Merci Robert, hein, vraiment merci beaucoup à vous.
Et merci de votre émission et de vos, de pouvoir donner la parole aux gens.
C'est le principe de l'émission.
Là, voilà, mais bravo,
et c'est l'occasion de dire qu'elle existe depuis de nombreuses années. C'est Alain Cros et Anne-Marie Pesson, les plus anciens s'en souviennent, qui avaient commencé cette émission « Les auditeurs ont la parole ».
Anne-Marie Pesson, oui. Oui, j'ai connu. Et c'est pas la première fois que je participe à votre émission.
Eh ben,
Anne-Marie Pesson, oui.
Robert, il est temps d'aller déjeuner, Robert. On va quand même aller déjeuner. On va aller déjeuner un petit peu.
Avec le dernier pharaon.
Je suis le dernier pharaon ?
Non, Anne-Marie Pesson.
Ah oui, d'accord.
Avec Lino Rollo.
Oui, d'accord. Bon, mais Robert, on va manger un peu. Merci beaucoup, Robert.
Merci à vous. Merci
beaucoup. Est-ce que nous pouvons prendre Catherine ? Ou est-ce que nous parlons ? Ah, bonjour Catherine.
Bonjour, monsieur Pro.
Ah, merci. Vous habitez dans le Loir-et-Cher.
Oui, toujours.
Famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière.
Pas du tout, je confirme. Pourtant, je viens de Bretagne.
Donc, vous êtes une électrice des Républicains ?
Ni Républicains, ni LAREM, ni Front National, ni de gauche. Je ne sais plus ce que je vais voter.
Ah bon ?
Voilà.
Bah, expliquez-nous.
Alors, je ne me sens pas du tout trahie par cette alliance parce que ce débat ne m'intéresse pas. Pour moi, il n'est d'aucune utilité parce que je n'entends aucun argument de programme. Sur quoi vont-ils s'entendre entre le LAREM et le LR c'est ça qui m'intéresserait de savoir. Sur quels arguments? Mais actuellement, ce qui me dérange beaucoup, c'est que... il n'y a plus d'argumentation. La pensée politique se résume à une pensée moraliste. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Alors, je prends un exemple. Je ne vote pas RN, mais je prends l'exemple. Le RN est toujours le marqueur de ce qui est mal. Voilà. Cette alliance, ce que l'on entend depuis tout à l'heure, c'est bien, c'est mal, c'est une parole moraliste. Le contenu, il n'y en a pas. Or, moi, je ne vote pas sur des gens, je ne vote pas sur des partis, les partis sont en complète déliquescence, et je vote pour un programme. Et là, je suis très ennuyée. Voilà.
J'entends bien sur un programme. Alors, je rappelle quand même que Renaud Muselier, qui a été élu tout récemment à la tête des Républicains, des Bouches-du-Rhône, c'est vraiment très récent, il ne pourra pas bénéficier cette fois-ci de l'investiture des Républicains, c'est ce qu'a dit Christian Jacob, le patron du parti. Mm-hmm. En dénonçant dans un communiqué des petites manœuvres électorales en PACA. On va marquer une pause et puis vous allez rester avec nous, Catherine, parce que vous n'avez pas beaucoup parlé. Donc on se retrouve dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Nous vous attendons au 3210 sur d'autres sujets. Une enquête pour violence volontaire et dégradation a été ouverte après les événements survenus samedi à la fin de la manifestation parisienne du 1er mai. Des militants de la CGT ont été agressés par un groupe de radicaux. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. Benjamin Hamard, porte-parole de la CGT, était sur place.
Face à face, très violent, avec une bonne brochette de fous furieux qui insultent, qui utilisent des insultes racistes, des insultes homophobes. Le secrétaire général de l'UD, il se prend au visage un liquide qui est ultra agressif, qui fait que pendant plusieurs minutes, il ne voyait plus rien. On nous a tagué CGT Collabo. Et le vrai souci, on se retrouve, nous, dans une situation où on doit affronter ces éléments-là avec derrière une barrière de police infranchissable et qui ne bougera pas pendant 50 minutes.
Vous étiez présent à la manifestation. Venez témoigner dans l'émission au 3210. Les pêcheurs de la région de Saint-Brieuc sont en colère contre le projet d'un parc éolien en mer. Les travaux commencent aujourd'hui. Julien Tréorel, patron pêcheur, ne mâche pas ses mots.
Croyez-moi, c'est la guerre. C'est la guerre tout simplement parce que nous ne sommes pas entendus par notre gouvernement, malgré toutes nos interventions au niveau politique, au niveau européen, pour prouver que ce projet n'a pas lieu d'être au sein d'une baie où la pêche artisanale a trouvé sa place depuis des décennies, qu'on ne peut pas implanter 62 éoliennes comme ça et en allant contre notre profession.
Vous pouvez réagir dès maintenant au 3210 3210 sur votre téléphone.
Vous savez, les fractures de la droite, c'est une antienne. Hein. En 81, Giscard et Chirac se présentent l'un contre l'autre. En 74, lorsque Valéry Giscard d'Estaing meurt, c'est l'UDR à ce moment-là, et Jacques Chirac emmène avec lui 40 députés de l'UDR pour rallier Valéry Giscard d'Estaing. Donc ça a toujours plus ou moins existé, Catherine.
Oui, mais je vais dire que là n'est pas le débat, ce sont des fractures, mais la pensée politique actuellement, j'insiste, elle est monopolisée par des élites de partis qui bataillent, mais il n'y a pas de contenu expliqué maintenant. Voilà, c'est ça qui m'ennuie beaucoup.
Où est la parole? Vous trouvez par exemple qu'il n'y a pas chez Emmanuel Macron une vision politique globale? Vous ne savez pas ce qu'il est, par exemple?
Si, si, il en a une. Il en a une. Ce que je veux dire, c'est que actuellement, la bataille entre ce qui se passe en PACA, où sont les arguments politiques? Qu'est-ce qui nous est donné à nous? Nous n'avons, en écoutant la télévision, les médias et les journaux, nous n'avons que l'idée de bataille de ces élites des partis qui bataillent entre eux. Mais où est la justification? La justification, c'est le marqueur négatif, le RN. Mais où sont les arguments? Sur quoi? Qu'est-ce qu'ils vont sacrifier chacun dans leur programme entre le LR et la REM en PACA?
Ben voilà. Vous leur poserez.
C'est ça que je voudrais entendre.
Eh ben vous avez raison, il faudra leur poser la question, mais on sait bien que l'idée, c'est effectivement de s'allier pour pouvoir gagner les élections. Il y a une forme de cynisme ou de calcul politique.
Mais on ne vote pas pour ça, on vote sur des programmes. Je prends l'exemple, si par exemple, lors des élections de monsieur de la présidentielle, les gens avaient lu attentivement le programme de monsieur Macron, ils n'auraient peut-être pas tous voté pour lui s'ils avaient lu le paragraphe, par exemple, de l'augmentation de la CSG de 1,7 sur les retraites. Je veux dire, il faut lire ces programmes. Et ça n'est pas sur des gens, sur des mines, sur des alliances. Non, il faut aller puiser profond. Pour le moment, on n'a pas ces explications, ces justifications. Voilà.
Ben, merci.
Pardon ?
Je disais merci, mais peut-être n'aviez-vous pas terminé le raisonnement ?
J'avais juste autre chose à dire. J'ai une autre partie à dire, mais c'est beaucoup trop long. Ah. C'est trop long. Je dis que la parole des gens n'existe pas. Elle est confisquée par tous ces jeux politiciens de bataille, d'alliance, etc. C'est pas ça qui nous intéresse. Ça n'est pas ça qui nous intéresse. Et je voulais dire juste autre chose, c'est un petit peu différent. Et je voulais dire que ce matin, vous aviez dans votre émission plaisanté sur le fait que peut-être vous seriez peut-être dans le collimateur. Eh bien moi je dis, vous êtes certainement dans le collimateur, monsieur Pro, et je dis attention, vous êtes notre service au public. Et nous tenons à vos émissions.
Vous êtes gentille, Catherine. Ce qui m'ennuie, c'est que vous parlez d'une émission qui n'était pas sur RTL. Donc je vous propose qu'on reste sur RTL.
Donné, voilà. Mais sur RTL, cette émission aussi est un service au public parce que toutes les opinions peuvent
C'est vous qui faites l'émission, hein. En l'occurrence, c'est pas moi. Merci beaucoup, merci. Catherine. Vraiment, merci. Nous allons écouter Jacques, qui est dans le Jura et qui est un électeur des Républicains.
Et un ex-électeur des Républicains.
Bah, oui, ou alors un électeur de l'ex-les Républicains. C'est comme on veut. Oui. Mais c'est la question du jour. Emmanuel Macron a-t-il piégé les Républicains ? Vous ne votez plus, vous non plus ?
Ah non, moi je vote tout le temps.
Et alors vous votez pour qui ?
Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron, j'ai voté pour Marine Le Pen, moi il n'y a pas de problème. Hein. Je ne me cache pas comme certains. Si j'avais, quand je vois, les grandes manœuvres ont commencé. Là on a compris, ça commence, les grandes manœuvres pour garder les régions, etc. etc. Bruno Muselier, bon... Je le comprends, hein, il veut garder sa région, ils ont un petit peu peur de perdre, parce qu'ils peuvent la perdre, la région. Et moi, si j'avais un conseil à donner à Monsieur Jacob, pourquoi pas faire une alliance avec le Rassemblement National. Alors, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais on peut être d'accord sur beaucoup de choses. Parce que ce qui peut se arriver, Pascal, c'est que le parti Les Républicains, si ça continue, peut disparaître totalement du paysage politique.
Mais évidemment. C'est-à-dire qu'il y a la partie droite va au Front National, au Rassemblement National, la partie gauche va chez Macron, bien sûr.
Tout à fait. Alors, Monsieur Jacob, il n'écoutera peut-être pas mon conseil, hein, il se fout de moi, mais c'est pas grave. Moi, je suis parti de son parti parce que je n'étais pas d'accord avec la direction prise par ce parti. Vous savez, le deuxième tour, on sait comment il va jouer. Il va y avoir les régions, c'est vrai. Ça va être serré dans pas mal de régions. Et on a compris que tout le monde voulait un petit peu sauver sa peau. Et je me souviens, il y a quelques mois, même sur votre antenne, j'avais parlé des traîtres. Mais ça continue. On essaye de partir un petit peu d'autre côté. Bruno Muselier a fait les yeux doux un petit peu à Macron. Bon, c'est humain, vous savez. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Et je suis d'accord avec cette dame qui était avant moi. Dites bien aux électeurs, lisez le programme. Lisez le programme des candidats. Et avant d'aller mettre votre bulletin de vote, parce que parfois on peut être surpris. Et voilà, c'est comme ça. Mais je peux vous dire que on va se marrer. Je pense que les futures élections, là, on va se marrer. On n'a pas fini d'en voir, quand même.
Merci Jacques. Alors, Greg Caranoni me dit qu'il y aurait un candidat pour les Républicains en PACA, et que ce candidat, on va peut-être l'entendre, ou en tout cas entendre son nom pour la première fois, en chanson. C'est Gigi Lamoroso qui serait...
Quelle mise en scène.
Qui va... C'est... Future tête de liste des Républicains.
Toujours vainqueur.
Quelle chanson, Gigi Lamoroso. Magnifique. Vous pouvez nous appeler si vous voulez parler de Dalida.
Du courage et du temps.
Allez, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, Renaud Muselier était la semaine dernière sur l'antenne de BFM et on lui posait la question, est-ce qu'il y aura des accords possibles entre listes différentes? Voici ce qu'il répondait.
Est-ce que La République En Marche va vous soutenir? Est-ce que vous serez le candidat des deux?
Sûrement pas. J'ai toujours dit pas d'accord d'appareil. Donc, il n'y aura pas d'accord d'appareil. Je le dis, je le répète depuis le début.
Vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. On va le réécouter d'ailleurs, parce que ça dure 10 secondes. C'est un son qu'a simplement 8 jours. Quelle crédibilité pour un homme politique lorsqu'il dit cela il y a 8 jours et qu'il change d'avis 8 jours après. C'est ça qui est insupportable. Disons-le, on réécoute Renaud Muselier, c'est tellement court que je vous le propose une deuxième fois.
Est-ce que La République En Marche va vous soutenir? Est-ce que vous serez le candidat des deux?
Sûrement pas. J'ai toujours dit pas d'accord d'appareil. Donc il n'y aura pas d'accord d'appareil. Je le dis, je le répète depuis le début.
Vous vous rendez compte, j'ai dit il y a 8 jours. En fait, c'est il y a 5 jours. Il y a 5 jours. Donc effectivement, ben, ça participe à la décrédibilisation de la vie politique. C'est ce que je dis là est factuel. Bonjour Eddy. Eddy ?
Oui, vous m'entendez ?
Ben, je vous entends très bien Eddy. Vous habitez dans le Nord ?
Dans le Nord, tout à fait, à côté de Lille, dans une petite commune qui s'appelle Anglo et dont je suis le maire adjoint.
Ah, vous êtes maire adjoint à 24 ans ?
Oui, tout à fait, ouais, depuis l'année dernière. Voilà, les électeurs ont fait cette confiance-là malgré mon jeune âge, donc j'en suis très fier.
Félicitations, parce que c'est bien de s'engager dans la vie politique, c'est sans étiquette.
Surtout à l'échelle locale, ouais. C'est divers droites affiliées pour ma part aux Républicains. Ouais. Mais voilà, on est un territoire divers droite, donc une étiquette qui colle à son territoire.
Bon, quel avis vous... D'abord, vous pouvez rebondir sur ce que vous venez d'entendre.
Bah, oui, vous parliez de crédibilité politique en règle générale, mais quelle est d'abord la crédibilité de la droite aujourd'hui dans le paysage politique français ? Je pense que depuis 2007, elle n'est plus véritablement ce qu'elle était auparavant. C'est-à-dire que depuis 2017, Nicolas Sarkozy, lui, s'était fait élire sur un programme électoral foncièrement de droite, hein. C'était la ligne Patrick Buisson. Finalement, lui qui devait passer le Karcher, il nous a proposé Kouchner, et au final, il s'est pas passé grand-chose. Et aujourd'hui, on voit Bruno Muselier qui, lui aussi, était issu comme Christian Estrosi, d'ailleurs d'une droite sarkozyste, et qui aujourd'hui nous fait alliance avec La République En Marche sans aucune considération idéologique. Donc finalement, en réalité, c'est plutôt louable cette alliance puisque les masques tombent. Et c'est révélateur d'une recomposition idéologique du paysage politique français. Moi, je suis affilié Les Républicains. Je vois avec un œil assez attristé cette situation. Et c'est pour ça que, en région PACA ou dans ma région, par exemple, les Hauts-de-France, je pense que les Républicains doivent reprendre en main leur destin. Ils doivent monter une nouvelle liste en vue de ces élections régionales. Par exemple, dans les Hauts-de-France, les Républicains sont en passe d'adouber Xavier Bertrand, y compris pour les élections régionales et encore au-delà pour l'élection présidentielle. Mais Xavier Bertrand, c'était pas celui qui, il y a 2 ou 3 ans, crachait sur les Républicains en disant que c'était devenu un parti résiduel, presque fascisant, enfin, du moins qui voulait...
Je ne suis pas sûr qu'il ait dit que les Républicains soient un parti fascisant.
Non, pas fascisant, mais vous voyez la tendance
c'est pas la même chose,
qu'il a voulu... Non, mais je suis entièrement d'accord, je retire peut-être ce terme. Mais en tout cas, il voulait donner cette image que les Républicains, vous voyez, là, je suis révélateur, voulaient tender à s'allier avec le Rassemblement National. Moi, en tant que, pas cadre des Républicains, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a justement une déconnexion des cadres des Républicains avec leur réel électorat. Mais entendant l'électorat des Républicains et étant un élu local, je vois ce qui se passe sur le terrain et je sais que les électeurs des Républicains sont en complète déconnexion, enfin du moins c'est les cadres des Républicains sont en complète déconnexion avec leur électorat qui lui est un électorat foncièrement de droite. Et je pense que ce qui se passe dans la région PACA profitera en réalité à Thierry Mariani, puisque moi étant électeur républicain en région PACA, si je l'étais, je voterais pour Thierry Mariani, je vous le dis, puisque Thierry Mariani est quelqu'un qui vient de nos rangs, qui vient des Républicains et qui porte des convictions qu'il a toujours portées, qui les porte avec assurance et détermination. Et je pense que c'est ça que les gens cherchent en politique. Malgré le changement d'étiquette, c'est pas de la tambouille politicienne à la veille d'une élection comme les élections régionales. Voilà, entre l'alliance entre Renaud Muselier et La République En Marche, c'est une alliance de tambouille politicienne et ça, les gens n'en veulent plus. Voilà, on plébiscite la conviction.
Effectivement, la tambouille. Alors, chez vous, les gens n'en veulent plus de la tambouille. Chez vous, Xavier Bertrand arriverait en tête, hein, a priori, au premier tour des élections régionales dans les Hauts-de-France, avec 33% des intentions de vote. Hein. Oui. En 2015, il était membre des Républicains, il avait obtenu 25%. Et devant, a priori, le Rassemblement National de Sébastien Chenu, avec 31% des intentions de vote. C'est bien cela. Et Karim Delli, qui est la troisième, qui représente La République En Marche, est à peu près à 17%.
Alors non, Karim Adeline représente en fait l'union de la gauche avec les écologistes, les socialistes, les insoumis.
Oui, vous avez raison. Pardonnez-moi, c'est voilà. Laurent Pietraszewski qui effectivement,
voilà, qui représente la République en marche, qui a 10%
qui est en difficulté. Voilà. Ben merci beaucoup. Je salue Laurent Boyer qui est là et c'est bien d'avoir Laurent Boyer avec nous. Il nous a fait un petit coucou. Il est en régie puisqu'on parle de Dalida aujourd'hui. Oui. Laurent, je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'interroger avant 87.
Déjà. Bonjour à tous les auditeurs. Alors. Bonjour Pascal. Pro, c'était très joli tout à l'heure, en fait, le pro des auditeurs. C'était très joli ce qu'a dit la dame. Je vous écoute tous les jours, hein, Pascal, sachez-le. Et Greg, j'écoute Greg Cardoni
vous
aussi.
Vous avez raison, mais ma question, c'est oui, Dalida. Alors,
oui,
est-ce que vous l'avez...
Dalida, oui, bien sûr, j'ai rencontré. Oui. J'ai rencontré avant ce drame. Elle était d'une gentillesse, d'une douceur. Beaucoup d'entre gens. Elle était, en fait, très, très disponible. Je l'ai rencontrée à Montmartre, elle habitait à Montmartre. À Paris, hein, 18e, tout en haut. Et je l'ai rencontré plusieurs fois, puisque ma compagne Alice Donna écrivait pour Dalida. Donc je rencontrais Dalida, son frère, et toute la clique qu'il y avait autour. C'est une femme d'une douceur incroyable, d'une extrême gentillesse. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, si vous posez la question à brûle-pourpoint, c'est ce que je vous dis vraiment.
Et très présente, évidemment, régulièrement sur les radios,
oui.
Avec des titres qui sont indémodables. Parole et parole, avec Delon, c'est indémodable. Il venait d'avoir 18 ans, c'est indémodable. Gigi Lamoroso, qu'on a entendu, c'est indémodable. Bambino, ça a un peu vieilli, disons-le.
Vous voulez une anecdote, oui. Pascal En fait, c'est Dalida qui a popularisé « Je suis malade » de Serge Lamas. Serge l'avait sorti un an avant, Dalida l'a repris, elle en a fait un tube, et c'est devenu un tube par Serge Lamas après. Mais c'est Dalida qui a fait un tube, la première de « Je suis malade ».
Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi.
Je crois que ce soir, Éric Jean-Jean consacrera... une partie de son émission à Dalida. Ben, mais merci d'être passé.
Je vous écoute tous les jours, Pascal.
Mais vous écoutez de Paris ou de Noirmoutier? Vous êtes où exactement?
Alors écoutez, non, à Paris, puisque j'ai travaillé. On est tous les deux fans de Noirmoutier. On salue tous les Noirmoutrins, évidemment, qui eux ont du beau temps aujourd'hui, paraît-il. Merci, Pascal, de votre invitation.
Ben non, merci à vous. Vous êtes en régie avec l'ami Greg Caradoni. Vous passez nous voir et c'est sympathique. On va marquer une pause et on continue. C'est la question du jour. Emmanuel Macron a-t-il piégé les Républicains?
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Évidemment, c'est notre question du jour. Emmanuel Macron a-t-il piégé les Républicains? Et ça vous fait fortement réagir, alors qu'on avait d'autres sujets. Je le rappelle, les pêcheurs de la région Saint-Brieuc qui se disent en guerre contre le projet d'un parc éolien. Vous pouviez réagir. Vous pouvez réagir également sur Nordal-le-Landais. Je posais une question toute simple. Pourquoi ces faits divers abominables nous intéressent-ils autant? On pourrait, par exemple, ne pas avoir envie d'écouter cela. Et on est tous, disons-le, souvent fascinés par ces informations. Vincent est avec nous, qui est infirmier libéral dans les Alpes-Maritimes. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Merci. Donc vous allez voter.
De la région PACA.
Exactement. Oui, donc vous allez voter.
Et je vais voter Muselaire en plus.
Ah, et alors qu'au départ, vous êtes de quelle sensibilité?
Eh bien, ça fait longtemps que déjà les Républicains, je les ai quittés depuis 4 ans. Parce que ils n'arrêtent pas de se tirer une balle dans le pied tout seul, comme des grands garçons qu'ils sont. Ils sont complètement, et moi ils m'ont déçu depuis 2016 et la dernière élection présidentielle avec cette histoire, parce que moi j'étais pour Juppé, je ne sais même pas qu'est-ce qui leur est arrivé de faire déjà une primaire et de me sortir Fillon du chapeau, enfin vous souhaitez, et plus tout le reste. Donc, non, moi, je vais voter Renew Muselin parce que, bon, moi, comme je suis dans la région, je vois un peu le travail. Et en plus, je vais vous poser une question toute bête, mais vous avez la réponse. Renew Muselin, il n'a pas été...
Muselier, il s'appelle. Vous Muselier, l'appelez pardon. Muselin, Muselier. Mais c'est peut-être un
Muselier,
autre.
Muselier, vous avez raison. Mais il n'a pas été élu président de la région. C'était qui a été élu? C'était Christian Estrosi. Et puis tout à coup, c'est pour ça, j'entends, on est cocu aujourd'hui. Mais non, les enfants, les auditeurs, là, on est trompés et tout. Christian Estrosi, il a été élu à la région, et puis après, tout à coup, il nous a fait une Marseillaise comme la mairie. Non, je retourne à Nice, c'est bien. Je resterai maire de Nice pour toujours. Et hop, c'est comme ça qu'il est arrivé. Et c'est les Républicains. Donc je vois même pas pourquoi aujourd'hui ils sont tous étonnés que les Républicains les trompent, les trahissent ou je sais pas quoi. Mais déjà dans leur propre parti, c'est, comme je vous dis, ils se tirent, ils sont déjà à 90% au bord du précipice. Emmanuel Macron, il fait quoi? Juste, il donne un petit coup de pouf, avancez encore un peu. Avancez, parce que là, vous êtes bien. Vous êtes bien, là, vous allez voir. Vous allez finir comme le Parti Socialiste. C'est exactement ça. Donc, ils le font tout seuls comme des grands garçons, mais ça les met tellement en colère de ne pas se remettre en question. Il n'y a aucun leader. Ne dites pas de Laurent Wauquiez, parce que ce n'est pas possible. Xavier Bertrand, même lui, il a quitté l'aventure. Il a vu que c'était du grand n'importe quoi. Pourtant, je le pensais pas si intelligent que ça, mais. Il a vu qu'on arrête tout, quoi. Et il y en a plein qui vont arrêter. Dans le gouvernement, vous l'avez dit, et même le Premier ministre, il y en a plein qui ont dit... Et en effet, il y a cette histoire d'avoir le pouvoir, et évidemment que c'est excitant, et puis avoir des responsabilités, s'occuper de la France. Il y en a plein qui ont vu que le bateau, il est en train de couler.
Alors je rappelle, et vous le disiez, en 2015, c'est donc Christian Estrosi qui mène la liste des Républicains et qui a, au premier tour fera 26%, il gagnera au deuxième tour avec 54%. Et c'est Marion Maréchal qui menait la liste de Feu, le Front National, et qui au premier tour avait fait 40% et au deuxième tour, elle avait échoué à 45,22% exactement. Et le troisième, c'était Christophe Castaner qui menait la liste PS et qui avait fait 16%. Il y avait également Sophie Camard, Les Verts, qui avait fait 6,54%. Tout ça au premier tour, bien sûr. Et Christophe Castaner était au PS. Donc on voit bien la recomposition telle qu'elle a lieu aujourd'hui. C'est-à-dire que Estrosi... il n'est plus républicain. Castaner, il n'est plus PS. Marion Maréchal, elle est en vacances de la politique. Et on voit bien que Estrosi et Castaner sont plutôt proches, au fond, de La République en Marche, comme Renaud Muselier. C'est ce qu'on appelle la recomposition.
Et donc là, tout le monde a l'air surpris, parce que depuis 13 heures, je vous écoute. Alors, ils sont tous déçus, ils sont tous cocus, ils sont trompés, ils sont trahis. Mais enfin, j'allais vous dire, comme vous l'avez dit, la vie politique, malheureusement, ça a toujours été ça.
C'est sûr que la trahison, et si tu veux t'acheter de la fidélité en politique, il faut mieux que tu prennes un chien plus qu'une carte politique, disons-le.
D'ailleurs, il y a toujours une expression, tous ceux qui sont arrivés au pouvoir, on les a appelés dans les reportages, les documents, les journalistes, tout ça, vous dites toujours c'est un animal politique.
Oui, alors pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, parce que les animaux, vous savez, ils ne trahissent pas, les animaux.
Pas dans le sens. Voilà,
ils sont fidèles, les animaux. C'est pour ça, si tu veux de la fidélité, prends un chien, disait je ne sais plus qui. Mais c'est vrai, les hommes sont les hommes. Et surtout dans les ambitions, évidemment, on peut. Ça, c'est inhérent à cela. Alors il y en a peut-être qui ne trahissent pas. Il y a peut-être dans la vie, peut-être qu'effectivement, des personnalités n'ont pas trahi. Mais souvent. Notamment à droite.
C'est pas une trahison, mais c'est une bonne combinaison, évidemment, qu'il y a. Oh, j'ai entendu combination, c'est le mot à la mode. C'est vrai qu'après cluster, maintenant, c'est en combination. Bon, ça occupe.
Je vais pas citer d'exemple parce que tout le monde les a en tête de personnalités qui étaient proches d'un camp, en tout cas proches parfois d'une personnalité, et puis qui ont viré Kazakh, comme on dit. Merci beaucoup, Vincent.
Il y a juste un truc, c'est que si les Républicains, parce que là, comme je vous ai dit, ils sont vraiment au bord du gouffre, il y en a qu'un qui peut essayer de relever le truc, et c'est dommage parce qu'il est extrêmement discret. Et c'est à la limite, je reviendrai sur le Républicain s'il intervient vraiment, et ça me fait de la peine parce que j'en entends pas trop parler, il est très discret. Moi, je suis pour François Baroin.
Lui-même, parce que lui, il n'a pas envie aujourd'hui d'en faire plus qu'il ne fait, le maire de Troyes. Merci, Vincent. Merci. Allez. Vincent. Nous allons recevoir Olivier Bois. Et Olivier Bois...
La fraîcheur.
La fraîcheur. Et
bonjour, Pascal.
Dalida a voulu lui rendre hommage avant même qu'il ne soit né.
Il venait d'avoir 18 ans. Il était
quasiment.
Fort comme un enfant, fort comme un homme.
Merci Pascal, à tout de suite pour le flash.
Évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est quasiment 14h. Le flash avec Olivier Bois.
Un guide de haute montagne et ses deux clients sont morts dans les Hautes-Alpes, dans le massif des Écrins. Ils ont été emportés par une coulée de neige à 3200 mètres d'altitude. Une enquête a été ouverte. Le début du procès de Nordal Lelandais, jugé devant la cour d'assises de Savoie à Chambéry pour le meurtre d'Arthur Noyer en 2017. Je n'ai jamais voulu lui donner la mort. Voilà ce qu'a dit ce matin Nordal Lelandais, qui sera jugé par ailleurs plus tard pour le meurtre de la petite Maïlis. Il réfute donc la préméditation et parle d'une bagarre qui aurait mal tourné. Lelandais avait pris en stop Arthur Noyer après une soirée en avril 2017, donc à Chambéry. 5 millions de collégiens et lycéens sont rentrés à l'école, complètement pour les 6e, 5e, en demi-jauge pour les lycéens. Le gouvernement promet 60 millions d'autotests jusqu'aux vacances d'été pour permettre notamment à tous les lycéens de se tester au moins une fois par semaine. Et puis c'est la fin de l'attestation de sortie. Aujourd'hui, première étape du déconfinement qui s'accélérera le 19 mai prochain. Les déplacements sont donc libres, mais le couvre-feu, rappelons-le, reste de mise à 19h. Le temps de demain, passage pluvieux sur la moitié nord quasiment toute la journée, plus intense sur l'est, nuageux mais sec dans le sud-ouest et la vallée du Rhône, et ce sera du soleil en Méditerranée. Il fera demain de 10 degrés à Lille, demain matin à 14 degrés à Perpignan. Et puis le quintet à Vichy, voici l'arrivée provisoire, le 16, le 5, le 5, le 7 et le 13. Voilà Pascal pour le quintet.
Merci.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il faudra attendre 15 heures, Olivier Bois, pour vous retrouver.
J'attendais.
Elle a des chansons adaptées à tous les flashs, alors Dalida, c'est parfait. À tout à l'heure, 15 heures.
Merci.
J'attendrai ton retour. Vous savez, monsieur, vous connaissez le jeu Monsieur et Madame
oui.
ont un fils. Monsieur et madame, le jour et la nuit ont un fils. Le jour et la nuit ont un fils. Eh bien, c'est... c'est Jacques André. Jacques André, le jour et la nuit. J'adore ce jeu parce que c'est idiot. J'adore ce jeu, c'est idiot. Alors, nous sommes avec qui ? Nous sommes avec Lynn. Bonjour Lynn.
Bonjour, bonjour à vous tous, bonjour Pascal.
Alors nous changeons de sujet avec vous. Nous allons sur le 1er mai et sur la violence peut-être.
Ouais, moi j'aurais voulu intervenir pour je voulais savoir si les personnes qui sont sur les plateaux télé ont déjà été dans une manifestation, parce que je pense qu'il faut aller dans ces manifestations pour se rendre compte de la violence et de la haine que tous ces gens ont dans leurs regards, dans les paroles. Vous savez, c'est incroyable, il faut le voir. Parce que moi, j'ai vu des choses, moi j'y vais en tant qu'observatrice, donc je vois le défilé du début, je regarde. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer la haine de ces gens. Vous avez un camion de police qui est à 10 mètres, vous avez des manifestants qui passent et qui vont chanter « Tout le monde déteste la police », qui vont les interpeller, qui vont leur dire « Viens ici, si t'es un homme, enlève ton bouclier, viens que je te cause ». Vous voyez, c'est ça, vous pouvez pas, c'est pour ça que je trouve que il faut aller pour se rendre compte.
Non, mais vous avez raison, mais ce sont les phénomènes de foule et surtout les hommes, parfois entre eux, il y a quelque chose de primaire, grégaire.
Primaire, mais vous avez pas que des gens primaires qui sont dans ces manifestations.
Oui, mais vous le devenez. Vous devenez comme ça, c'est ça là. L'influence de la foule, c'est psychologie des foules. C'est-à-dire que les gens, parfois, perdent leur raison, le sens commun, et parce qu'ils se mettent en groupe, en troupe. Vous savez, c'est très intéressant, la psychologie des foules. D'autres ont théorisé là-dessus, hein, bien avant moi, mais vous mettez les gens ensemble dans une même pièce, ou même dans la rue, et ils vont avoir un comportement qu'ils n'auraient jamais de manière solitaire, et même ils vont penser comme ils ne penseront jamais de manière solitaire.
Je sais pas, je pense peut-être, mais est-ce qu'il faut généraliser ça ? Non, je ne crois pas, voyez-vous. Donc...
Bah quand t'es en groupe, si, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ce phénomène de groupe qui procure ça.
Oui, peut-être, oui, enfin. Mais quand on voit la façon dont ces gens, cette haine, c'est ça que je pense que quand
raison.
On parle de guerre civile, oui, moi, quand je vois ça, j'y vais parce que j'adore la France et j'y vais, je me dis, mais où on va?
Et vous étiez où, Lynn, par exemple, le 1er mai?
Ah ben moi, le 1er mai, je suis allée à Nation, puis j'ai descendu pour voir tout le mouvement de toute la manifestation.
Et vous n'avez pas eu peur
gens.
Pour vous
donc, Non, parce que je fais très attention.
Ah oui, mais quand même, on peut prendre...
Vous avez des féministes, vous avez des gens qui sont très joyeux, qui dansent, et puis vous avez des groupes qui sont là, qui vont prendre une bouteille, qui vont la lancer. Et vous étiez seule ? Oui, j'étais seule parce que je peux mieux me faufiler partout. Et j'y vais pour observer, vous voyez, parce que j'arrive pas à réaliser. D'abord, je suis retraitée, je suis plus âgée que vous. J'arrive pas, Pascal Praud, à réaliser que ma France est rendue à cet état.
Et ça a toujours existé un peu,
non,
peut-être
non,
pas cette...
non.
Quand on voit les images de 68, c'est pas rien.
Vous aviez pas cette haine en 68 comme ça. Vous aviez d'abord plus de solidarité. Là, entre les manifestants, ils vont se bouffer, hein. Parce que quand il y en a qui, moi, j'ai vu, il y a des gens qui disent, mais non, mais faites pas ça, faites pas ça. Mais entre eux, ils disent, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est un flic, tu dois le battre. Enfin, voyez, vous vous rendez compte.
C'est intéressant ce que vous dites. Il y a plus de tabous, peut-être, ou de limites.
Non, il y a plus de tabous. Vous avez le visage de François Pinault qui est en tête avec la fille de Bettencourt, avec le nombre de millions de dividendes versés.
Ah ben c'est l'argent, la haine de l'argent.
Mais oui, mais la haine de l'argent, mais ça peut aussi se comprendre, parce que quand on dit, oui, Monsieur Macron, il a calmé les gens en payant le chômage partiel et tout. Mais il y a des gens qui ont le chômage partiel, il y avait des restaurateurs qui défilaient aussi, vous voyez. Il y avait tous ces gens-là qui profitent du système, mais qui sont contre ce système.
Bah merci, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, Lynn. Mais faites attention quand même à vous, vous êtes courageuse.
Oui. Mais j'aimerais que les gens qui sont sur votre plateau télé aillent de temps en temps à la manif, vous voyez, pour se rendre compte au lieu
vous savez,
de parler.
Ils sont bien assis,
dire.
Bien au chaud, et puis ils ne veulent pas aller sur le terrain. Cela dit, moi, je ne fais pas le malin, je n'irai pas aujourd'hui sur le terrain, sur une manifestation. Hein.
Ah bah oui, mais c'est quand même, il faudrait y aller pour vous rendre compte vraiment.
Je mets un casque et puis parce que je veux pas tomber sur. Vous voyez. Non, s'il y en a un qui me reconnaît par malheur, je vais passer un mauvais moment, hein, je vous le dis, Lynn. Hein.
Oui, peut-être, oui. Et pourtant,
je pense que les Black Blocs, oui, je pense qu'ils doivent nous penser comme des outils du système. Pour
oui, mais il y a des raisons. Moi, je n'irai pas brandir la pancarte de François Pinault ni de Bettencourt, parce que j'estime que ces gens-là, ni de Bernard Arnault, j'estime que ces gens-là gagnent de l'argent, mais font travailler des Français, font travailler du monde. Vous voyez, ils sont quand même restés en France. Bon, bah, peut-être qu'ils ont fait de l'argent ailleurs, enfin, j'en sais rien. Mais, si vous voulez, il y a quand même des choses qui sont inadmissibles. On voit bien que la politique économique, on embauche toujours de plus en plus de fonctionnaires et on a de moins en moins de services publics. Comment vous expliquez ça ?
C'est une bonne question. Merci beaucoup, Lynn. Mais a priori, on embauche quand même un peu moins de fonctionnaires. Si j'ai bien compris, il y a un fonctionnaire sur deux parfois qui n'est pas toujours remplacé lorsqu'il part à la retraite.
Oui, mais bon.
Là, je ne rentre pas précisément dans le débat, d'accord. Mais c'est ce que j'entends en tout cas. Bon, merci, Lynn, en tout cas. Vous habitez Neuilly-sur-Seine, donc vous n'êtes pas très loin de nous, mais c'est intéressant. Vous allez dans les manifestations, monsieur Greca-Anoni, pour voir le 1er mai ?
Non.
Bon. Ah voilà.
Bah voilà, mais il est pas courageux.
Je l'emmène la prochaine fois.
Vous passez me prendre en bas de la radio, Lynn ?
Oui.
Oui, mais je suis pas loin. Je peux passer vous voir, mais déjà je voulais venir vous voir, mais vous êtes. On peut pas franchir cette porte. Voilà, c'est fort dommage.
Oui, en ce moment il y a des mesures de sécurité peut-être plus drastique. Vous avez offert un peu de muguet à Madame Caranoni ce week-end ?
Bien sûr.
Ah, ça, je vous félicite.
Un petit brin et à mon fils même, puisque vous me demandez.
Bah oui, mais votre fils, pourquoi vous lui offrez un brin ? C'est à sa femme
pas.
Qu'on offre.
Moi, je peux offrir un brin à mon fils, ça me fait plaisir.
D'abord, vous faites ce que vous voulez.
Merci.
C'est entendu, mais c'est davantage à votre épouse. Et monsieur Tessier, il a offert un petit brin également ?
Il me fait oui avec son pouce, il me dit même trois brins.
Trois brins.
Quelle générosité.
Eh bien, écoutez, nous allons marquer une pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le 1er mai, nous sommes avec Jérôme parce que les syndicats ont retrouvé la rue pour ce 1er mai malgré le Covid-19. Il y a eu des manifestations partout en France, mais c'est vrai qu'il y a eu des violences, notamment à l'arrivée de la manifestation. Place de la Nation, c'était samedi vers 18h. Des militants CGT ont été victimes d'une extrême violence commise par un important groupe d'individus dont certains se revendiquent gilets jaunes selon le syndicat. Ils brisaient les vitres d'un véhicule et tag CGT collabo. C'est comme si la CGT était donc dépassée sur sa gauche. La centrale de Montreuil a déploré samedi soir quand même 21 blessés, dont 4 graves. Les 4 personnes qui avaient été hospitalisées, dont une avait perdu connaissance quelques minutes, sont depuis sorties de l'hôpital, a-t-on appris dimanche auprès de la CGT, qui prépare a priori une réponse ou une réplique. Dans un communiqué, la préfecture de police a expliqué dimanche qu'un itinéraire de sortie avait été concerté en amont pour les véhicules syndicaux à partir de la place parisienne. On est avec Jérôme, qui est agent de maîtrise à Rouen. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Merci d'être avec nous.
Déjà pour commencer, moi je suis contre toute violence, mais je ne suis pas surpris de ce qui se passe à Paris. J'y suis pas allé cette année, j'y suis allé en 2019, la première fois de ma vie que j'allais un 1er mai, et en tant que gilet jaune. Quand je suis arrivé à Paris, il m'a été interdit de rentrer dans la manifestation de la CGT. Il voulait en aucun cas être assimilé, que les gilets jaunes soient assimilés à la CGT, et je dirais le service d'ordre relativement agressif. Et je dirais, ils récupèrent un peu ce qu'ils sèment aussi, hein, parce que quand j'entends Monsieur Martinez parler avec violence aussi, ça me surprend pas. Enfin, toujours est-il, quand j'ai vu les images, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas surpris?
Si vous voulez, moi, le jour qu'on m'a interdit de rentrer dans la manifestation des CGT, si j'avais été, on était 4-5, nous sommes des personnes posées, si on avait été un peu, si on avait répondu aux violences du cortège de sécurité, enfin du cordon de sécurité.
Mais le truc, c'est la CGT qui était violente, c'est ce que vous voulez dire?
Moi, je parle de ce que j'ai vu. Si j'avais répondu avec violence comme eux, ils m'ont agressé ce jour-là.
Donc là, c'est la CGT qui vous agressait, c'est ce que vous dites?
Bah, on avait en aucun cas, ils voulaient qu'on soit avec eux parce qu'on avait un gilet jaune.
Bah oui, mais ça vous choque par exemple que vous ne défiliez pas vous avec la CGT, que la CGT préfère défiler avec la CGT?
Bah, ce qui me choque, c'est qu'on est tous là pour la même raison, pour le travailleur, pour les droits.
Bah oui, mais tout le monde ne défend pas de la même manière. Que chacun défile en fonction de son appartenance, de son syndicat ou de son groupe, est-ce que c'est choquant?
C'est extrêmement. Moi, je suis choqué. Et c'est ce qui a pourri aussi le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça a fait le beurre des politiques, on va dire. Ça a séparé la population. Moi, mon collègue qui est syndiqué, c'est mon pote, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est Berger, Martinez et compagnie, ils font le jeu de la politique. Et nous, les petits...
Ouais, donc vous dites CGT collabo, c'est un peu ce que vous dites. C'est marrant parce que finalement, vous êtes un peu... Alors, vous n'êtes contre la violence, mais vous reprenez d'une certaine manière l'argumentation politique de ceux qui ont attaqué la CGT.
Peut-être qu'ils ont été attaqués parce qu'ils voulaient défiler tranquillement et que le service de sécurité, j'ai vu des images où est-ce que...
Comment non, c'était à la fin de la manifestation, c'était à la fin. Donc, ils leur reprochent simplement d'être... moi, j'entendais à mort les syndicats, des gens qui considèrent, mais c'est... Comment dire? C'est des anarcho-syndicalistes, ça a toujours existé aussi, et ça fait des années, là aussi, qu'on entend ça, c'est de considérer que la CGT fait le jeu du système, c'est fait le jeu du pouvoir, est associée au pouvoir.
La CFDT et compagnie. Hein. Moi, je mets
oui, mais ce langage-là, comprenez qu'il faut bien qu'il y ait des syndicats qui soient des courroies de transmission et des représentants qui représentent les travailleurs. Moi, je veux bien qu'on m'explique que la CGT est affiliée au grand patronat, mais vous n'allez pas me convaincre.
Non, mais par contre, je vais vous convaincre que dans mon entreprise, je suis pour les syndicats. J'ai jamais été syndiqué, mais sans eux, on n'aurait rien.
Bah oui. Mais
je vais vous dire, monsieur Pro, j'ai fait des grèves en mon nom, mais jamais pour une personne, pour un parti. J'ai voulu, quand j'ai commencé les gilets jaunes, je mettais pas mon gilet jaune parce que je ne voulais pas appartenir à un groupe. J'ai voulu, après, dans mon entreprise, j'ai contacté les délégués de tous les syndicats pour créer un syndicat du peuple, sans étiquette, sans rien. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Non, nous, on reste dans nos petits entre nous. Ou, voilà. Ils sont pas ouverts. Ils sont pas ouverts aux autres.
Écoutez, merci Jérôme, puisque c'est intéressant et c'est votre avis et c'est pour ça que vous l'exprimez à l'antenne. Il est à 14h15.
Allez, au revoir.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
On a dit au revoir à Jérôme. Alors, vous savez que les pêcheurs de la région Saint-Brieuc se disent en guerre contre le projet d'un parc éolien. Les travaux commencent aujourd'hui. Les pêcheurs ne vous laisseront pas détruire le patrimoine naturel et les activités économiques de la baie de Saint-Brieuc. De Saint-Brieuc a alerté le comité des pêches. C'est vrai que ces éoliennes posent problème. Elles ne sont pas très jolies. J'ai le droit de le dire comme ça. Il y a des endroits de France où c'est vraiment très laid. Et la idée. Nous sommes avec Dominique. Bonjour Dominique.
Et oui, merci. Bonjour Pascal et l'équipe de RTL.
Merci bonjour. D'être avec nous. Qu'en pensez-vous de ce parc éolien en baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, dont les travaux commencent ce lundi?
Et voilà, nous sommes très en colère puisqu'ils vont carrément détruire la faune et la flore sur une des plus belles plages d'Erquy à Carroal. Il faut savoir que les pylônes de chaque éolienne, ça représente un terrain de foot en béton. Donc, toute la faune et la flore vont forcément être saccagées. Et nous, on est le premier port coquillier d'Erquy, de la coquille Saint-Jacques, hein, de la baie de Saint-Brieuc, justement. Et on détruit la plage de Carroal, qui est absolument magnifique, et où les résidents, enfin, les touristes viennent s'y baigner chaque année. Et c'est, enfin, pour moi, c'est une honte.
Je suis ennuyé parce que je pense un peu comme vous, moi,
sur
les éoliennes. Je trouve que c'est un saccage de la. C'est un saccage visuel. Donc,
visuel, et en plus, la faune et la flore, donc en même temps, elle va se reproduire. Je vous dis, on est un des premiers ports au niveau de la plaisance et au niveau des pêcheurs, parce que c'est quand même eux qui sont les premiers touchés. Donc, voilà. Et
alors, il faudrait entendre peut-être un avis contraire. Qu'est-ce qui justifie ce parc éolien?
Je pense qu'il y a des enjeux économiques derrière tout ça. Après, nous, la première municipalité qui a voté au départ pour et a été contre après, mais c'était trop tard, ça a été signé. Donc on est impuissant, il n'y a pas eu de référendum, la population n'a jamais pu donner d'avis là-dessus. Donc de toute façon, on est impuissant face à ça. Ça a été décidé, point barre, quoi.
Et qu'est-ce que vous allez faire là? Parce que manifestement, les pêcheurs ne sont pas contents, donc ils vont manifester.
Ils vont essayer de manifester. Pour moi, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, si je peux me permettre. Voilà, donc on est tous mis devant le fait accompli, on ne peut rien faire.
La zone du parc représente, je crois, l'équivalent du deuxième plus gros gisement de coquilles Saint-Jacques de Bretagne, hein, c'est bien cela?
Oui, c'est ça, et Erquy en est la capitale de la coquille Saint-Jacques. Et il y a 62 éoliennes qui vont être implantées, quoi. Donc la plage de Carroal est déjà bitumée, les routes ont été les câblées.
La plage est bitumée.
Ils ont amené tout le circuit électrique devant le village de Carroal. Hein. C'est en travaux. Hein. La RTE, y est déjà depuis plusieurs mois.
Hein. Merci de votre témoignage, parce que vraiment
la
merci
colère,
de votre témoignage, parce que moi je vous comprends et c'est vrai que pour apercevoir parfois des éoliennes dans le paysage. On peut quand même émettre parfois quelques réserves. Voilà ce qu'on peut dire. A tout de suite et on va finir avec Dalida.
L'histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il y a 9000 éoliennes en France, il y en a 26000 en Allemagne. Et c'est vrai que cette énergie-là fait polémique. Peut-être on aura l'occasion d'en parler un jour plus longuement. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup parlé des éoliennes de ces derniers mois. En tout cas, ce micro. Nous sommes donc avec Lara, peut-être pour terminer notre émission et pour évoquer la mémoire de Dalida qui nous quittait il y a exactement 34 ans. C'était le 3 mai 1987. Et figurez-vous que je me souviens encore de la une de Libération qui avait titré « Dalida au Paradisco ». Lara.
Bonjour Pascal.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va très bien. Oui, Dalida, j'ai un petit écho là.
Ah, vous avez un écho?
Un petit écho, oui.
Mais
oui,
alors
oui.
Là, je ne peux pas vous... Greg, pourquoi la dame a un écho?
C'est pas grave.
C'est pas grave.
Je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous, Lara.
Ouais, parce que c'est... là, c'est vous, a priori, c'est pas nous.
Je peux vous mettre de la musique de Dalida, mais c'est tout ce que je peux faire.
Non. Bon, alors, on va voir. C'est pas grave.
Tout est fermé chez vous.
Oui. Il y a pas de. Oui, absolument. D'accord.
Donc Dalida, dites-nous.
Voilà. Alors Dalida, une grande dame qui avait le respect de son public, qui était magnifique, qui avait une élégance, beaucoup de classe et surtout le respect de son public. Et puis bon, j'aimais beaucoup cette chanteuse qui était actrice aussi, et qui aurait pu être une grande actrice. Elle avait un jeu assez exceptionnel d'ailleurs.
Quelle chanson vous préférez par exemple de Dalida?
Alors moi j'aime beaucoup il venait d'avoir 18 ans.
Qu'on a entendu tout à l'heure.
Voilà.
Texte, je crois, de Pascal Sevran. Hein.
Tout à fait. Et un texte assez bon pour l'époque, qui était assez spécial, puisque c'était l'amour d'une femme de plus de 40 ans avec un jeune homme de 18 ans. Donc c'était quelque chose.
Une cougar, dirait-on aujourd'hui.
Un mot que je déteste.
Oui, je l'enlève. Non, mais vous avez raison, je l'enlève parce qu'il n'est pas beau. Non, vous avez raison, c'est un peu. Je suis d'accord. Ouais.
Voilà, donc voilà, c'est surtout ça. C'est une grande dame qui était terriblement seule aussi, c'est ce que je disais à la personne que j'ai vue avant, à votre standard, et qui était bien sûr sous les projecteurs, mais aussi très seule, quelque part, puisque elle a eu une fin terrible, en fait.
C'est ça qui est toujours mystérieux parfois sur ces personnalités-là, effectivement, qui sont seules. Ce n'est pas votre cas, peut-être, Lara ?
C'est-à-dire ?
Mais non, mais je voulais savoir si la femme que vous êtes de 59 ans, cette chanson vous touche particulièrement, et pardonnez-moi d'être indiscret, parce que peut-être vous est-il arrivé de rencontrer un homme plus jeune que vous. C'était un peu cela.
Pas du tout. Ah bon. Alors, pas du tout. D'accord. Non, je ne suis pas du tout touchée par ce genre de... Non, ce n'est pas moi. Donc, non,
pardonnez mon indélicatesse.
Pas du tout. Non, ce n'est pas délicat. Hein. C'est juste parce que je j'aimais cette chanson et que ça aurait pu avoir un rapport éventuellement par rapport à ça. Non, du tout.
Mais c'est vrai qu'il y a un âge parfois où les garçons sont attirés, lorsqu'ils ont 18-20 ans, disons-le, par des femmes qui ont une certaine expérience.
Et peut-être plus maintenant qu'il fut un temps, je pense, puisque maintenant la femme ne ressemble plus vraiment à la femme d'il y a une quarantaine d'années, qui était souvent sombre, qui était souvent... Maintenant, les femmes, elles sont plus...
Ah ben, vous avez parfaitement raison. C'est absolument incroyable quand on se souvient de nos grands-mères.
C'est ça,
qui, à c'est partir ça. De 40 ans, s'habillaient entièrement en noir et faisaient le deuil, parfois, même de leur vie amoureuse. Effectivement, aujourd'hui, le monde est tout à fait différent et sans doute est-ce beaucoup mieux.
Voilà, la femme bouge, la femme s'assume, la femme... Donc, c'est tout à fait, c'est une autre époque. Donc, forcément, certains, en plus, elles ont généralement une assise au niveau de la société et tout, qui font qu'elles sont peut-être plus attrayantes pour des jeunes, en fait.
Jean-Pierre est là également. Quelques secondes. Merci beaucoup, Lara. Vraiment, on vous embrasse. Et quelques mots de Jean-Pierre, qui, lui, est un fan de Dalida, peut-être.
Oui, allô ?
Oui,
vous Jean-Pierre.
Ah ben je vous entends parfaitement.
Bon, écoutez, bravo pour votre émission, c'est super. Je voulais juste vous rapporter un témoignage absolument fabuleux de Dalida. J'avais 12 ans et je n'avais pas d'argent pour assister à son spectacle. La première partie était assurée par Dalida, la deuxième par Adamo, et je vous parle de ça, il y a plus de presque 60 ans. Et je me cachais dans les coulisses pour assister à sa répétition. Et très gentiment, elle était venue vers moi avec un paquet de bonbons. Et elle m'a offert non seulement le bonbon, mais le paquet de bonbons en me donnant une tape sur la joue. J'étais très sensible à ce geste qui prouve et qui montre la générosité de cette femme. Voilà, je voulais vous le dire et vous le rapporter, tout simplement.
Ben c'est super. Alors évidemment, le paquet de bonbons, vous l'avez mangé.
Alors j'ai gardé des années, et puis les déménagements de mes parents, malheureusement j'ai perdu, il aurait peut-être beaucoup de valeur aujourd'hui.
Mais évidemment, puisque Dalida l'aurait touché. C'est le débrief, pardonnez-moi Jean-Pierre de vous raccourcir le temps d'antenne, mais c'est le débrief de monsieur Tessier qui arrive à l'instant.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission, par Laurent Tessier.
Parole, parole, parole.
C'était la question du jour. Emmanuel Macron a-t-il piégé les Républicains pour les régionales en Provence, Alpes-Côte d'Azur? Que pensez-vous du retrait de la liste LREM au profit du président sortant Renaud Muselier?
Être LR ou pas, that is the question.
Gilles Platret, vice-président des Républicains, était bien remonté ce midi.
Le parti qui est le nôtre ne peut pas aujourd'hui accepter d'être cocufié.
Alors Dominique est ancien militant, les Républicains, un autre avis bien poétique?
Je me sens vraiment couillonné, on s'est fait vraiment avoir par Macron.
Ah oui, vous pouvez répéter Dominique?
Couillonné.
Voilà, on l'a entendu, mais encore j'ai l'impression que vous le vivez assez mal.
On me fait une espèce de petit dans le dos. Alors vous parliez tout à l'heure du parti radical, Pascal, je crois que je vais être radicalement parti, moi.
Et une actualité qui vous inspire aussi en chanson, Pascal.
Parfois on dit que la politique c'est parole, parole aussi.
Aussi, mais c'était plus banal. Est-ce que là, mourir sur scène, peut-être
c'est
agréable. Que
ça... peut-être que content d'avoir eu cette idée.
François était avec nous au 32-10. Il n'a pas caché sa colère.
C'est Macouille et compagnie, c'est une nouvelle franchise de la politique. Il a peur de perdre sa place, monsieur Muselier, mais dites, il faut prendre des risques dans la vie. Hein.
Alors, dans l'émission, on va se faire un petit jeu.
Tu veux pas.
Oui, pour la présidentielle, François, Xavier Bertrand, ça vous plaît?
Mais pas du tout, monsieur Bertrand, il est tout bon, on dirait nounours.
D'accord.
Bon, ça c'est fait. Alors, on va tenter une candidate.
Valérie Pécresse.
Agir, pourquoi? Il s'invente des mots. Mais c'est pas une patronne.
Bon, Valérie Pécresse, c'est non pour François, allez. Un autre candidat, s'il vous plaît.
Bruno Retailleau.
Mais c'est pareil, c'est des petits soldats.
Emmanuel Macron, ça passe ou pas pour vous, François?
Monsieur Macron, c'est un étudiant qui a mis un costume. Il est pas patron.
Non, non plus. Alors qui, François? Qui peut être l'élu?
La droite, elle est morte. Sans Monsieur Sarkozy, il n'y a plus de droite. Les Républicains, il faut refaire venir le patron. Avant, il y avait le patron. Monsieur Sarkozy a gagné les élections.
Sinon, Robert, quelque chose à nous dire sur l'histoire de la vie politique française?
Mitterrand m'a provoqué des douleurs stomacales.
Je suis désolé d'avoir ravivé ces douleurs.
C'est cela, oui. C'est cela, oui.
La poésie, bonjour. Bon, redevenons sérieux, nous avons une exclusivité.
Greg Caranelli me dit qu'il y aurait un candidat pour les Républicains en PACA.
Oh, on arrête tout. Quelle est cette information essentielle?
Ce candidat, on va peut-être l'entendre, ou en tout cas entendre son nom pour la première fois, en chanson.
Une dernière pensée avant de se quitter, Pascal.
Ils sont fidèles, hein, les animaux, c'est pour ça. Si tu veux de la fidélité, prends un chien, disait je ne sais plus qui.
Mais je vous en prie, pourquoi pas, mais quittons-nous avec un autre jeu.
Monsieur et madame, le jour et la nuit ont un fils. Le jour et la nuit ont un fils. Eh bien, c'est Jacques André.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une demande au gouvernement.
C'est drôle ce jeu, monsieur et madame. Vous n'aimez pas ça, mais ça me fait rire, je vois.
Monsieur, moi, j'aime bien quand c'est vraiment drôle.
Madame Micoton, par exemple, a une fille. Mylène Micoton.
Oh non.
Monsieur et madame, on est fait pour s'entendre entre une fille qui va dire qu'on est très en retard.
Ah oui.
Ouais, voilà.
Flavie, dans une seconde.
Pascal Praud.